Tu crois à ça, toi, à l'Église? Texte de Céline Wakil, lu par France Lamontagne. J'ai un amour profond pour l'Église. Je suis consciente que cet amour est plutôt atypique pour des gens de ma génération. Ça m'a motivée à œuvrer en pastorale, comme agente en Église diocésaine. Pour ce numéro d'appoint, j'ai eu le goût de livrer un témoignage, mon témoignage. Mon expérience comme personne croyante au sein de l'Église universelle. En quoi je crois aujourd'hui quand je dis que j'aime profondément l'Église du Christ? Lors d'une rencontre en pastorale, la personne responsable du temps de prière nous a demandé de raconter comment Dieu s'est révélé à nous, dans notre vie. J'écoutais mes collègues et je trouvais que mon expérience était plate, sans grand remous. J'aurais tant voulu avoir une foi démonstrative comme les autres. J'ai fini par prendre la parole, et c'est lorsqu'une collègue m'a dit que ma foi était très vivante que j'ai réalisé qu'elle l'était vraiment. C'est grâce à son regard que ma foi a grandi, en un certain sens. Je me suis alors plus affirmée dans mon amour pour l'Église, parce que pour moi, croire aujourd'hui, c'est aussi croire en l'Église. Initiative de Jésus-Christ venu chez nous. Je crois profondément en l'Église et je commence par croire en ces croyants que je rencontre ici et là, à l'épicerie, à la garderie, dans la rue et parfois à l'Église. C'est ma grande expérience de croyante au cours des dernières années. Je rencontre plus de chrétiennes et de chrétiens en marge de l'Église institutionnelle qu'en son sanctuaire. Ainsi, je crois en la présence réelle de Dieu au sein de l'Église universelle, parce que ce n'est pas sa hiérarchie qui forme l'Église, mais bien chacune et chacun des enfants de Dieu à qui il se révèle et qui l'accepte. Je crois en l'Esprit-Saint qui souffle où il veut et sur qui il veut. La force et la puissance de l'Esprit est peut-être la plus grande conviction que j'ai. Comme Dieu offre le salut à tout être humain, la présence de l'Esprit-Saint est au cœur de chaque femme et de chaque homme. Je crois aux enseignements de l'Église, en ses pasteurs, femmes et hommes, réels cadeaux de Dieu. Je crois en ces théologiennes que j'ai rencontrées et qui doivent faire leur place. Je crois en ces théologiens prêtres que j'ai aussi rencontrés et qui doivent parfois se battre à l'interne. Je crois au travail des agentes et agents de pastoral qui donnent leur vie pour œuvrer à l'établissement du règne de Dieu ici-bas. Je crois profondément en ce travail, en cette œuvre de Dieu qui nous est confiée, d'abord comme baptisés et spécialement comme appelés à la vocation diaconale. Nous sommes en tenue de service devant nos pères, nos concitoyens et devant Dieu. Nous ne cessons pas d'être agentes et agents de pastoral lorsque la journée est terminée. Je crois en notre rôle pastoral au sein de nos communautés. Je crois aux jeunes. Ils ont une motivation et une énergie bien à eux. En vieillissant, elles s'effritent peu à peu. Il faut donc que tous puissent profiter de leur expérience. Je crois en leur énergie renouvelable. Dans ma vie, ce n'est pas tant de croire qui est difficile, mais bien d'affronter la peur qui s'oppose à ma foi. La peur à laquelle je fais référence est celle occasionnée par les actes qui vont contre l'amour. Je pense aux gestes terroristes, à la violence en général, aux contre-témoignages d'hommes et de femmes de foi, etc. Tout dans ma foi me dit d'avoir confiance et espérance, mais la vie actuelle me mène malheureusement vers plusieurs formes de peur causées par l'instabilité économique, sociale, politique, etc. Je crois que le grand défi des croyants d'aujourd'hui est de répandre l'espoir dans le monde par l'exemple de leur propre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cette épreuve de la solitude dans la foi. Comment avez-vous pu la gérer dans votre espace de croyant, de croyante? Dans le contexte québécois, il me devient difficile d'avoir un cercle de croyants. J'ai heureusement des amis, des connaissances qui ont marqué ma foi au point de la changer. Toutefois, j'expérimente souvent des temps de prière solitaires. Mes amis proches et croyants s'inscrivent dans une foi affermie, mais sans grand remous, comme moi, quoi. Qui se ressemble s'assemble, dit-on. Mais les personnes les plus influentes sont mes amis radicaux, ceux et celles qui vivent quotidiennement et à fond leur foi chrétienne. Sans entrer dans les détails de mes relations, je peux vous dire qu'il y a de très nombreuses personnes qui marquent ma vie de foi. Mes copains les plus convaincus m'ont guidé dans l'affirmation de ma foi. Le premier fut Normand. C'est lui qui a donné une âme à mon expérience de foi. C'est lui qui a concrétisé mon expérience chrétienne. Grâce à son appel, je suis devenue agente de pastorale et j'ai eu le goût de découvrir Dieu et l'Église avec plus de profondeur. Mon amie Annie récite des chapelets et des rosaires en allant conduire ses enfants à la garderie, sans se soucier de ce que les gens peuvent dire en l'entendant. Cette amie a renoué ma relation avec le bénédicité et l'action de grâce. Annie, c'est mon amie témoin de foi au quotidien, qui veut être pour sa famille et ses amis un exemple de cohérence dans sa vie spirituelle. Mon amie Stéphanie est l'artiste visuelle épanouie, motivée par Jésus-Christ. Depuis sa conversion à la foi catholique, Stéphanie a décidé de mettre son talent au service de l'Église. Elle agit continuellement au nom de sa foi. Elle a été pour moi un exemple de solidification dans la foi. Stéphanie est un merveilleux exemple pour moi. David est mon ami contestataire. Combien de discussions nous ont animées? Dans son rôle d'avocat du diable, il m'a fait avancer dans mes réflexions. Il m'a poussé vers l'avant, à ne jamais m'asseoir sur une vérité et à constamment questionner la situation de foi qui se trouve devant moi. Si l'Église fait un pas en avant, comment pourrais-je la propulser davantage en avant, au nom de la justice, de la miséricorde et de l'amour? Comment aider les plus pauvres, mission première de l'Église? Croire a toujours été facile pour moi. Dans ma vie de tous les jours, je me suis parfois frottée à des gens hostiles ou curieux, indifférents ou enflammés. Dans ces situations, j'ai été chanceuse. Je n'ai jamais remis en doute l'existence et l'expérience de Dieu. Je viens d'une famille qui est calme face à la croyance religieuse, calme mais ferme. Pendant toute mon enfance, je suis allée à la messe et mes activités croyantes se limitaient à cela et à la prière avant d'aller me coucher. De plus, je voyais mon père réciter ses grâces après les repas. Cette image m'est toujours restée en tête. Personnellement, je ne peux pas dire si cela a joué un rôle dans ma croyance, mais ces gestes ont influencé mon attitude religieuse à l'âge adulte. Adolescente, j'ai goûté les prémices de l'expérience de la parole. Venant d'une famille stricte, c'est grâce à l'Église si j'ai pu m'en sortir. J'organisais des temps de catéchèse pour des enfants du primaire pendant les messes. Alors, une fois par mois, je me sauvais de la maison pour préparer avec d'autres ces moments de catéchèse. Et une deuxième fois par mois, je me sauvais de la messe que je trouvais archiplate. Vous comprendrez que ce n'est pas la messe qui a forgé ma croyance. Elle a toutefois influencé mes gestes religieux. Mais j'étais encore enfant dans la foi. Au cours de cette même période, on m'a approché pour la JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, de Rome. Jusqu'à ce que l'agent en place constate que j'étais trop jeune pour la JMJ. Partie remise. Elle revient me voir 12 à 18 mois plus tard pour la JMJ de Toronto. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. En fait, je n'ai jamais pris le temps d'y réfléchir. Pourquoi irais-je là? Me suis-je dit. C'est suite à un appel de celui qui allait devenir mon ami Normand que j'allais répondre oui. C'était le début d'une longue aventure. Devenu jeune adulte, je me suis rendu à la JMJ de Toronto. Parallèlement, ce fut aussi le début d'une belle expérience pastorale au camp de jour public auquel je participais. Sans m'en rendre compte, j'ai eu littéralement un coup de foudre pour tout ce que je découvrais de l'Église. J'ai donc décidé d'aller me former à l'université en théologie. Dans ma tête, je n'en devenais pas pour autant une future agente de pastorale. Non, ma carrière en théâtre, mes premières amours, se dessinaient devant moi. Mais 6 années d'études en théologie ont tellement été marquantes et surtout signifiantes que je n'avais d'autre choix que d'aller en pastorale. L'appel était beaucoup trop fort. J'avais un désir tellement grand de changer l'Église. Aujourd'hui, j'ai toujours cet ardent désir, mais pas comme je le veux, plutôt comme Dieu nous appelle tous à le faire. L'Église est instrument. Pour l'instant, c'est par elle, en communion universelle avec nos sœurs et frères dans la foi, que le royaume de Dieu advient. Ce n'est pas à moi uniquement de faire bouger les choses en Église, mais à chacun de nous. Cette Église se doit de bouger, car elle existe pour le monde qui lui aussi est en mouvement. Le pape François, après son élection, a demandé à la foule de le bénir. Quel geste audacieux, me suis-je dit. Mais pourquoi est-ce si audacieux? C'est si naturel, comme baptisé, d'offrir sa bénédiction à autrui, fut-on pape. Joseph Moins, dans son introduction au livre Vox Populi, Vox Dei, nous rappelle, à l'aide de saint Paul, l'importance que nous avons les uns pour les autres. Édifier, voilà le maître mot de tous les enseignements de Paul. Édifiez la maison de Dieu qu'est l'Église. Vous édifiez, vous portez les uns les autres, vous supportez mutuellement, aidez les autres à s'élever, même au-dessus de vous. Nous ne sommes plus au temps des cathédrales, à l'édification par la hiérarchie, mais bien à l'édification des êtres, par l'action de l'Esprit. L'Église catholique, telle que nous la connaissons, a toute sa pertinence dans la mesure où elle sait se questionner et opérer les déplacements et changements nécessaires à son propre salut. Comme le disait le pape François, il faut cesser d'être autoréférentiel, d'être tourné seulement sur soi. Quel narcissisme! C'est un danger qui nous guette. L'Église catholique reconnaît les baptêmes de certaines autres confessions chrétiennes. Sommes-nous avec elle? Est-ce que nous les accueillons vraiment dans nos discussions ecclésiales? Irions-nous jusqu'à leur demander leur avis lors de réformes? Prenons un exemple. De très nombreuses paroisses au Québec sont confrontées à l'inévitable. Elles doivent réfléchir à leur avenir, qui risque d'être très court. Nos sœurs et frères dans la foi chrétienne vivent certainement des situations très similaires. Pourquoi ne pas les inclure dans nos réflexions? Pourquoi ne pas unir nos forces afin que tous soient un dans le Christ et qu'au nom d'un même baptême nous œuvrions pour la même cause? Si je crois encore en cette Église, c'est que je la vois bouger, parfois trop lentement à mon goût, mais elle bouge. Je m'inscris dans une tradition religieuse et culturelle à laquelle je suis attachée. Je n'ai pas l'intention de me joindre à une autre confession, mais j'ai l'intention d'être avec l'Église totale. Et l'Église est formée des baptisés, qu'ils soient orthodoxes, anglicans, luthériens, etc. Je crois que nous sommes rendus à l'étape de devoir travailler ensemble, tous les baptisés, catholiques et chrétiens. Mon expérience de croyante m'ouvre l'esprit, afin de permettre à d'autres, je l'espère, de découvrir la foi qui les habite. Croire aujourd'hui, c'est avoir de l'espérance. Dans une perspective chrétienne, l'espérance est fondée en Jésus le Christ. Croire aujourd'hui, c'est accorder du crédit aux valeurs fondamentales. Croire aujourd'hui n'est plus exclusivement de l'ordre de la foi religieuse. Croire, c'est avoir confiance, parfois dans une institution humaine, parfois en Dieu. Mais c'est d'abord et avant tout se faire confiance. Qu'on soit de foi chrétienne ou non, il faut d'abord s'aimer pour aimer l'autre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On dirait que Jésus révélé Christ a même pensé à ceux qui lui seraient indifférents ou qui n'arriveraient pas à croire en sa divinité. Une chose peut être certaine pour chaque être humain. Sans l'amour, aucun cœur ne peut battre. La vie, la foi, la croyance sans amour n'existent pas.